l'employeur de la mairie me donne une copie de mon livret de famille. Je découvre, je suis la première fille, Kim Yuli, née le 25 décembre 72, fille de Kim Chun-soo. Après, il y a le nom de mon frère, qui a été aussi adopté. Je réalise que j'ai vécu dans un mensonge pendant quasiment 40 ans.
RFI. Grand reportage.
Depuis la fin de la guerre en 1953, près de 200 000 enfants sud-coréens ont été adoptés à l'étranger. C'est plus que dans aucun autre pays. Il faut dire qu'après le conflit qui a divisé la péninsule coréenne en deux, les images de nombreux orphelins sont apparues sur les écrans de télévision du monde entier. Mais de là à faire de la Corée du Sud le champion du monde de l'adoption, des questions se posent. La douloureuse histoire de l'adoption internationale en Corée du Sud, c'est un grand reportage de Nicolas Roquin.
Regardez ici, il y a un système de détecteur de mouvement. Comme ça, les employés peuvent entendre la sonnerie et savent qu'un enfant vient d'être déposé ici. En plus, regardez la température, elle est prévue pour accueillir un bébé.
Oui, en effet, c'est chaud.
En 10 secondes, nous vérifions l'état de santé de l'enfant et les bénévoles s'empressent d'arriver pour s'en occuper.
Yang Sun Won est secrétaire général de Baby Box, une petite boîte prévue pour accueillir un nourrisson qui permet aux personnes en incapacité d'élever leur enfant de pouvoir le confier en toute sécurité aux responsables de cette église protestante du sud de Séoul.
Alors ici, c'est la pièce des bébés, il y en a 8.
Et combien de temps est-ce que les bébés restent ici ?
Eh bien, ceux qui vont partir à l'adoption restent ici un mois avant d'aller dans les familles. Pour ceux dont les mères souhaiteraient peut-être récupérer la garde, alors nous prenons soin d'eux entre un jour et jusqu'à 6 mois. Tandis que pour les nourrissons qui vont dans les orphelinats, ils ne restent ici que 5 jours.
Devant la petite pièce dans laquelle 3 bénévoles tentent de conforter les enfants, un tableau comptabilise le nombre de nourrissons recueillis. Depuis 2009, ils sont près de 2000 à être passés par les mains des équipes de celui qui dirige le projet, le pasteur Lee Jong-rak.
En Corée du Sud, c'est particulièrement important d'avoir une baby box car il y a énormément d'enfants qui naissent en dehors du système légal. Beaucoup de mères adolescentes craignent de déclarer leurs enfants au gouvernement du fait de la pression sociale et des stigmates dont souffrent les jeunes mères célibataires. Et puis, en Corée du Sud, un père ne peut pas déclarer l'enfant seul. Donc, si la mère lui confie l'enfant, il ne peut pas le déclarer. Et si le gouvernement ne sait pas que l'enfant existe, alors il est impossible d'avoir des aides sociales. C'est la même situation si les parents divorcent ou s'ils ont conçu l'enfant hors mariage, car ils préfèrent souvent ne pas le déclarer.
Ce soixantenaire aux cheveux blancs expose un paradoxe. La Corée du Sud est la 10e économie mondiale et possède le taux de natalité le plus faible de l'OCDE. Pourtant, entre 200 et 300 enfants sont abandonnés chaque année, contre environ 150 en France. Cela s'explique entre autres par le manque d'aide et les stéréotypes dont souffrent les mères célibataires. Mais pas seulement. Le système de protection de l'enfance connaît encore des difficultés, notamment car il a longtemps reposé sur l'adoption internationale.
Dans le passé, le gouvernement sud-coréen a beaucoup compté sur l'adoption internationale pour la gestion de tous les enfants abandonnés ou en situation difficile. Après la guerre de Corée, nous n'avions pas le choix du fait de tous les orphelins de guerre que ne pouvaient pas protéger les autorités à l'époque. Avant, il n'y avait quasiment aucune régulation car nous voulions à tout prix envoyer les enfants à l'étranger. Mais maintenant, la Corée du Sud est devenue stable économiquement et nous sommes capables de prendre soin des nôtres. Désormais, nous avons des règles strictes pour l'adoption internationale et il y a aussi un nombre d'adoptions internes à la Corée du Sud. En août 2012, une loi est venue clarifier le cadre légal autour des procédures d'adoption. C'est toujours possible d'adopter, mais de nombreuses règles compliquent le processus.
L'histoire de la Corée du Sud et de l'adoption internationale commence par la guerre. 3 ans d'un conflit fratricide entre le Nord communiste et le Sud capitaliste qui s'achève en 1953 avec 3 millions de morts et 100 000 orphelins. Pourtant, c'est 30 ans plus tard, dans les années 1980, que le pic de l'adoption est atteint. Dans la seule année 1986, près de 9000 Sud-Coréens sont adoptés à l'étranger, soit quasiment 24 par jour, un toutes les heures.
Je m'appelle Kim Yuri. Je suis née en Corée le 27 décembre 1972 et j'ai vécu avec mes parents, mes grands-parents maternels jusqu'à l'âge de 7 ans.
Yuri est l'une de ces 200 000 enfants qui ont dû grandir loin de leur Corée natale. Pour la première fois, elle accepte de témoigner. Son histoire est unique de par les violences qu'elle a subies, mais elle illustre les dérives du système de l'adoption internationale tel qu'il a été conçu en Corée du Sud. Une agence d'adoption a un rôle clé dans son récit. La Holt, nommée après le couple d'Américains qui a créé l'organisation, Harry et Bertha Holt, eux-mêmes parents adoptifs de 8 enfants coréens. Et si à l'époque les règles étaient simples, l'une était intangible, seuls les orphelins étaient éligibles à l'adoption internationale. Mais Yoli et son frère n'en sont pas. Jusqu'à leurs 7 ans, ils vivent avec leurs parents. Les parents divorcent, alors ils alternent entre vie chez leur père ou chez leurs grands-parents, jusqu'à ce qu'un jour, leur mère les récupère afin de les amener dans un orphelinat. Elle leur explique que c'est provisoire, elle continue de leur écrire et de leur envoyer de l'argent.
Le 23 décembre 1983, une assistante sociale de la Holt vient à l'orphelinat et elle appelle moi et mon frère. Elle nous dit « Venez me voir ». Là, je commence à avoir un peu peur. Et elle nous prend en photo tous les deux. Je me suis dit, au début, peut-être qu'elle veut nous prendre en photo pour un souvenir de mon frère et moi. Et puis, dans ma tête, c'était clair, on ne pouvait pas être adoptés. Et puis, c'est ce que m'avait dit l'assistante maternelle. Vous, vous êtes trop âgés, plus vous avez des parents qui ne vous ont pas abandonnés, donc vous ne pouvez pas partir en adoption. Le temps passe, le 1er mai, quelqu'un vient nous chercher et ils nous disent « Vous avez de la visite ?» On se prend par la main, on descend les escaliers, on rentre dans le bureau. Là, on voit nos grands-parents avec ma tante, une des dirigeantes de l'orphelinat, leur dit « Mais dans 30 jours, ces enfants vont partir en France. » Mais mes grands-parents disent « Ils ne peuvent pas partir !» On est la famille. Ils ont de la famille, ils ne peuvent pas partir. Donc, mon grand-père, qui était directeur d'un collège, il demande est-ce que leurs parents ont signé des papiers en disant qu'il est donné en adoption ou pas? L'employé de l'orphelinat soutient que oui, que mes parents ont signé les papiers et qu'ils ont abandonné et qu'ils ont signé l'accord pour l'adoption. Dans ce cas-là, mes grands-parents, ils disent « on ne peut rien faire ». Notre vol, c'était un vol du soir. Et l'orphelinat nous a donné l'autorisation de passer la demi-journée avec notre grand-mère. Et on a passé la journée à manger tout ce qu'on voulait manger. Elle nous disait « qu'est-ce que tu as envie de manger ? Parce que tu ne vas pas pouvoir manger coréen pendant jusqu'aux Jeux Olympiques. » Parce que la Holt nous avait dit qu'on irait vivre à Paris avec des parents aimants et riches qui m'enverraient à la Sorbonne. Et qu'en 88, ils viendraient avec nous en Corée pour les Jeux Olympiques. Donc on reverra nos grands-parents, nos parents en 88. Je les ai crus.
Yuri et son frère s'envolent alors vers leur nouvelle famille. Terrifiés, ils sont accueillis à Roissy par un couple de Français. Lui est policier, elle, mère au foyer. Ils sont catholiques et vivent à la campagne. Dès l'arrivée dans sa nouvelle maison, Yuli est méfiante, car la première nuit, leurs parents adoptifs leur demandent de dormir avec eux.
Le lendemain, dans leur lit conjugal, ils nous invitent à faire un câlin, tous les quatre au lit. Et moi, je devais m'allonger à côté de mon père adoptif au bord du lit. Mon frère, de l'autre côté, à côté de ma mère adoptive. Et là, je sens un truc dur sur ma cuisse. Je suis terrifiée. Je ne sais pas ce que c'est. Après, je sens une main qui frotte l'entrejambe et puis j'essaie de serrer mes cuisses et il essaie de d'écarter et j'étais traumatisée. Le lendemain, ça a recommencé. Là, il a pris ma main pour me forcer à le masturber, quoi. Et en même temps, l'autre main, il l'avait glissé dans mon slip et je serrais mes cuisses, mais il arrivait à me doigter, quoi. Et j'ai senti une douleur que je n'avais jamais sentie depuis ma naissance. Et je me suis dit, c'est quelque chose, il est en train de me faire quelque chose de pas normal. Et puis après, je pleurais et lui disais, sois gentil, sois gentil, sois gentil.
Yuli raconte avoir subi les viols, les insultes et les coups de son père adoptif de ses 11 à ses 17 ans. Un calvaire qu'elle doit vivre en silence. L'agence d'adoption française ne vient pas vérifier si leur arrivée se déroule bien et si le couple remplit son rôle de parent. À l'époque, les règles de contrôle des adoptants étaient bien plus souples pour les enfants étrangers que pour les petits Français. Finalement, elle trouve la force de fuguer et d'aller dénoncer son père adoptif aux services sociaux et à la police. Mais sans le témoignage de son frère ou de sa mère adoptive, l'affaire est classée sans suite. Yuli essaye ensuite de se reconstruire loin de sa famille adoptive. Elle réapprend le coréen et entreprend des recherches pour retrouver les siens. Grâce à l'adresse de ses grands-parents qu'elle avait conservés, elle retrouve sa famille et en avril 1994, elle retourne en Corée.
J'arrive à l'aéroport de Gimpo. Je vois encore ma mère qui attend derrière la barrière, qui m'appelle Yuri. Ma mère pleure, je pleure aussi. Je vois que je lui ressemble beaucoup physiquement. On arrive chez elle et là je découvre que j'ai une demi-sœur. C'est un choc parce que... Mais comment elle a pu m'abandonner et avoir eu une autre enfant, quoi. Et ma mère insiste, me demande si j'ai envie de voir mon père ou pas. Je lui dis pas vraiment, parce que dans ma tête, mon adoption a été possible parce que mon père nous avait légalement abandonné et accordé l'adoption.
Une version des faits qu'elle croit pendant près de 30 ans. Jusqu'à ce qu'elle se replonge dans son dossier d'adoption fourni par la Holt cet hiver. Elle découvre de nombreuses irrégularités. Tout d'abord, il y est écrit qu'elle est née de parents inconnus. Et puis, les pièces en français et en anglais ne concordent pas. Pour en avoir le cœur net, elle décide de se renseigner auprès de l'administration sud-coréenne afin de vérifier si elle a été officiellement abandonnée.
Je suis allée à la mairie le 17 janvier. J'ai donné l'identité de mon père avec sa date de naissance et le lieu de sa naissance. Et là, l'employeur de la mairie me donne une copie de mon livret de famille. Je découvre, je suis la première fille, Kim Yuli, née le 25 décembre 72, fille de Kim Chun-soo. Après, il y a le nom de mon frère qui a été aussi adopté et deux autres enfants, frères et sœurs qui sont nés de deuxième mariage. J'ai l'impression d'avoir été écrasée par un bus. Je réalise que j'ai vécu dans un mensonge pendant quasiment 40 ans. Pourquoi j'ai décidé de ne pas croire à mes parents, mais choisi de faire confiance à une agence d'adoption?
Aux yeux de la Corée du Sud, elle est légalement inscrite sur le livret de famille de son père et dispose toujours d'un numéro d'identité sud-coréen. Une situation invraisemblable mais pas isolée. De nombreux autres adoptés ont constaté des incohérences et des manquements évidents dans leur dossier. Lee Kyung-eun s'est penché sur le combat de ces adoptés sud-coréens et sur les graves manquements du système. Chercheuse en droit international, elle est aussi militante du groupe pour le droit à connaître ses origines.
In 1961, the Immigration Act of the United States.
En 1961, la loi sur l'immigration aux États-Unis a créé un statut spécial pour l'entrée sur le territoire, appelé orphelin par abandon. Le seul critère est que l'enfant doit être trouvé abandonné. Alors, cet orphelin peut rentrer sur le territoire américain avec l'aide d'un citoyen pour être adopté. Cette même année, la Corée du Sud a créé aussi une loi sur une procédure spéciale d'adoption. Jusqu'ici, il n'existait pas dans la tradition de la loi familiale sud-coréenne d'adoption plénière, avec les mêmes droits qu'un enfant de naissance. et cette loi ne s'appliquait qu'aux étrangers. Elle avait été conçue spécifiquement pour s'adapter au statut d'orphelin aux États-Unis.
Cette législation offre un pouvoir énorme aux agences, notamment une dont le nom revient souvent, la Holt. Elle a organisé la grande majorité des adoptions internationales depuis la Corée du Sud.
Imaginez-vous les années 1960. Il n'y a aucun vol direct de la Corée du Sud vers les pays occidentaux qui recevait les enfants. Les trajets pouvaient prendre plus d'une journée. La Holt avait même leur propre charter pour amener les enfants aux États-Unis.
Donc ils avaient leur propre avion pour envoyer les enfants aux États-Unis.
Oui.
Le processus d'adoption qu'elle décrit pose de nombreuses questions. La police, les parents, les orphelinats ou bien les hôpitaux trouvaient les enfants et les confiaient aux agences d'adoption qui ensuite organisaient leur départ à l'étranger. Mais les procédures administratives se déroulaient quasiment sans aucun contrôle de l'État coréen ou bien des pays d'accueil, ce qui pousse Lee Kyung-eun à considérer que, comme Yuri, de nombreux autres Sud-Coréens adoptés n'étaient en réalité pas abandonnés.
Dans les années 80, il y avait entre 8000 et 9000 enfants par an. Cela fait 500 par mois, des dizaines par jour. Vous pensez que des dizaines d'enfants sont trouvés chaque jour abandonnés dans la rue? Est-ce que c'est un pays normal? Je ne peux pas le croire.
Les voix des adoptés commencent à se faire entendre ces dernières années en Corée du Sud. Certains affirment avoir simplement lâché la main de leurs parents ou bien s'être perdus dans une gare avant de finir adoptés à l'étranger. Des récits qui font peser de lourds soupçons sur les agences d'adoption et notamment la Holt. Contactée, l'organisation a refusé l'entretien. Mais après plusieurs semaines de négociations, le gouvernement a fini par accepter une rencontre. Kim Jae-yeon, directrice de la division du bien-être enfantin au sein du ministère de la Santé.
Je reconnais des failles et des lacunes dans la supervision publique des procédures d'adoptions internationales. Dans le passé, les agences promouvaient publiquement l'adoption à l'étranger sans qu'il n'y ait de vérification assez poussée pour les enfants qui avaient en réalité des parents. Afin de prévenir d'autres abus, la loi sur les cas spéciaux d'adoption a été amendée et ça a rendu l'enregistrement de la naissance des enfants obligatoire avant l'adoption. Il est aussi désormais obligatoire pour les agences de garder tous les documents de la procédure afin de ne plus avoir de cas d'enfants adoptés sans le consentement des parents biologiques.
Désormais, seules quelques centaines de bébés quittent le pays chaque année et au moins autant sont adoptés à l'intérieur de la Corée du Sud. L'ancien président Kim Dae-jung s'est excusé auprès des 200 000 adoptés sud-coréens pour ne pas avoir pu les éduquer, mais aucune enquête ni excuse officielle de la part de l'État n'est envisagée.
La raison pour laquelle le gouvernement sud-coréen n'a pas fait d'excuses ou bien n'a pas fait d'enquête sur l'adoption internationale, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de regrets sur ce qui s'est passé, mais c'est car nous considérons qu'une excuse insuffisante ou maladroite n'aiderait pas à résoudre ce dossier et pourrait même blesser les adoptés ou les personnes concernées.
Certains adoptés continuent à vouloir faire la lumière sur leur histoire. L'un d'entre eux s'appelle Adam Krapser et il a même porté l'affaire devant les tribunaux en attaquant la Holt et l'État sud-coréen. Parti à l'âge de 4 ans aux États-Unis, il a ensuite perdu la nationalité américaine à 41 ans car les tribunaux ne reconnaissaient pas la légalité de sa procédure d'adoption. Il a alors dû retourner dans une Corée du Sud dont il ignorait tout. Une histoire tragique dont l'issue judiciaire pourrait tout de même être un soulagement pour certains adoptés qui cherchent à établir la responsabilité de l'État et des agences d'adoption dans les très nombreuses dérives de l'adoption internationale en Corée du Sud.
La douloureuse histoire de l'adoption internationale en Corée du Sud, un grand reportage de Nicolas Roca, réalisation Pauline Leduc.